C'est bon.
Allez, c'est parti.
Bégaye-toi, bégaye-moi.
Bégaye-toi, bégaye-moi.
Bégaye-toi, bégaye-moi.
Bégaye-toi, bégaye-moi. Bégaye-toi, bégaye-moi.
Bienvenue dans le podcast de l'association Parole Bégaye-moi qui vous fait entendre la voix de personnes qui bégayent et bredouillent.
Ils et elles vous invitent dans leur univers et vous partagent leurs histoires sans filtre.
Bonne écoute.
Épisode 7. Dans cet épisode, écoutez Malik. Il nous raconte son cheminement vers l'acceptation et son envie de prendre la parole pour mieux faire connaître le bégaiement.
Malik, je suis ravie d'être à tes côtés aujourd'hui et de discuter avec toi du bégaiement, de ton parcours.
Alors, merci Cécile déjà d'avoir accepté de te prêter à ce jeu d'intervieweur ou voilà, je pense que c'est le mot juste. Alors, je suis Malik Njai, j'ai 30 ans et voilà, et plus quoi, voilà, si on peut dire comme ça. Je viens du Sénégal, alors la précision elle est importante et on le verra après parce que ça a façonné mon rapport au bégaiement et bien sûr mon engagement envers ce bégaiement-là. Alors je suis professeur qui bégaye, chercheur aussi et voilà, je pense que...
Alors je me prête au jeu aussi de la présentation, je suis orthophoniste. Depuis le début engagée auprès de l'association Parole Bégaiement, j'ai eu la chance, un peu par hasard, en 1995, d'assister au premier colloque de l'association Parole Bégaiement. Et je suis tombée dans la marmite du bégaiement. En réalité, c'est pas par hasard, c'est pas parce que je bégaye, mais parce que la communication m'intéresse. Et toi, dis-nous un petit peu aussi par rapport à... les choses qui comptent pour toi dans ton engagement aujourd'hui autour du bégaiement.
Alors, dans mon engagement autour du bégaiement, bon, ça remonte il y a très longtemps et c'est un peu lié à mon histoire. Comme je l'ai précisé en introduction, je viens du Sénégal. Alors, je viens aussi d'une famille de personnes qui bégayent, des grands-parents, des oncles, des tantes, des frères et sœurs aussi. Donc, je pense que les gens auraient pu s'attendre à ce que le bégaiement soit un sujet central chez moi. Alors que non, ça a été tout le contraire. Et c'est vrai que j'ai eu une enfance assez normale, on va dire, avec des parents bienveillants sur tous les aspects, sauf le bégaiement. Donc, j'ai grandi avec l'impression d'être tout seul et de ne pas intéresser les adultes face à un problème qui me touchait personnellement. Alors, les gens faisaient comme si c'était normal que je bégaye parce qu'il y a eu quand même des antécédents dans la famille. Et face à une société, on va dire, où les gens se résignent assez rapidement. Je pense qu'au Sénégal, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un peuple résilient. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, on va dire, Dieu le veut ainsi, donc tu fais avec et après tu te débrouilles comme tu peux. Donc je me suis retrouvé à me débrouiller avec mon bégaiement tout seul, sans réponse. D'ailleurs, sans question, parce qu'un enfant ne connaît ni le bégaiement, ni les thérapies qui existent. C'est la responsabilité des adultes de au moins de nous parler de ces choses-là complexes, parce que tu vois que tu n'es pas normal, tu vois que tu ne parles pas comme les autres enfants, tu te rends compte que tu n'es pas dans les normes sociales. À l'école, lever la main pour répondre à une question, répondre à un inconnu dans la rue, ou aller à la boutique, comme on dit au Sénégal, demander un bonbon ou quelque chose, c'était le parcours du combattant. Donc, tu te rends compte que tu n'es pas comme les autres, que tu es différent. Bien sûr, dès l'instant qu'on est différent, peu importe la typologie d'handicap, on le ressent et les autres nous le font ressentir. Voilà.
Oui, je me disais Beg et toi, Beg et moi, au Sénégal, c'est peut-être différent de ce que tu as ensuite vécu quand tu es arrivé à Paris.
Exactement. Alors, je m'en souviens très bien, la première fois où j'ai entendu parler du bégaiement tout court et de l'orthophonie, c'est quand je suis arrivé ici. Alors, je précise que ça fait 15 ans que je vis en France, donc c'est un pays d'adoption avec un socle social, familial qui s'est construit ici. Donc, je suis autant bien au Sénégal qu'en France. Donc, la première fois où j'ai entendu parler du bégaiement, c'était en France. La première fois où j'ai entendu parler d'orthophonie, c'était en France. C'est assez paradoxal de quelqu'un qui vient d'une famille de personnes qui bégayent. Et j'ai été assez surpris de savoir qu'il existe des réponses ou des solutions. En tout cas, au début avec le bégaiement, je voulais m'en débarrasser. Plutôt, voilà.
Je me doutais.
Alors, m'en débarrasser, tout simplement. Alors, d'ailleurs, je la remercie Claire Loga, qui était ma responsable à l'UT de Sceaux, où j'ai travaillé en tant qu'assistant bibliothécaire pendant 5 ans sous ses ordres, mais sous sa direction. Et on a eu des relations fraternelles jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est elle qui m'a dit, écoute, je pense que tu bégayes. Elle ne l'a pas dit parce que je pense que les gens, ils font attention lorsqu'ils abordent le bégaiement avec nous. Donc, elle a su trouver les mots pour me dire, il faut consulter une orthophoniste parce que je pense que tu en as besoin. Donc, le fait que cette particularité soit pointée du doigt, ça m'a quand même fait quelque chose. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté Cécile Couvignon. Via...
Tiens.
C'est ça.
On s'est rencontrés déjà il y a une quinzaine d'années ?
Non, je pense qu'on s'est rencontrés en 2010, quelque chose comme ça. Hein.
Allez, donc, ne nous vieillissons pas.
C'est ça, exactement. À peu près, voilà. Et l'idée que j'avais à l'époque, c'était me débarrasser du bégaiement. Parce que d'après moi, en quelques séances, l'orthophoniste allait me débarrasser de cet handicap qui est la cause de tous mes malheurs et de tous mes échecs dans la vie. Parce que j'adorais accuser les bégaiements de tout ce qui m'arrivait, en fait. Et voilà. Donc, ça a été ma première rencontre avec les bégaiements et l'orthophonie.
Ce qui est certain, dans ce que tu dis, on retrouve vraiment cette idée irrationnelle que la personne qui bégaye traverse, surtout au début, ce bégaiement extérieur à elle dont on doit l'aider à se débarrasser.
Alors, comme je l'ai précisé en amont, cette rencontre était fortuite, non préparée, parce que, et aussi en réalité, je ne connaissais absolument rien du bégaiement, de mon bégaiement. Donc, sans réfléchir à tout ça, je me suis dit, bon, j'y vais pour me débarrasser de ce mal qui est la cause de tous mes malheurs. Quand je suis arrivé, j'avais la ferme conviction que ça marcherait. Et après quelques séances, d'ailleurs assez intéressantes, je me suis rendu compte que finalement, le miracle n'arriverait pas. Voilà, que le bégaiement était toujours là, que psychologiquement, j'étais assez instable, en tout cas par rapport au bégaiement, parce que là j'avais une sorte de désillusion. Voilà. Et je me suis rendu compte que non, le bégaiement est toujours là. Et en plus, il est assez fort comme avant. Donc, à quoi sert réellement l'orthophoniste? Sans pour autant remettre en question les qualités de ma thérapeute à l'époque, je pense que c'était plus mon rapport au bégaiement qui était compliqué à l'époque que son travail de thérapeute. Donc, après quelques mois, j'ai arrêté. J'ai arrêté tout simplement. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lire sur les bégaiements, tout simplement. Lire, voir des témoignages. Je pense que Yann-Éric de Fraissinet et Laurent Lagarde, là, qui ont fait pas mal de choses sur les bégaiements. Il y a Richard Parent aussi qui a traduit des textes en anglais. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai beaucoup lu sur le bégaiement pour au moins comprendre comment ça s'est passé. Et je pense que j'avais besoin de ce parcours-là d'initiation. C'est paradoxal qu'une personne qui bégait ne connaisse rien du bégaiement. Mais je pense que j'avais besoin de ce parcours de compréhension. Et je pense que c'est 2 ans ou 3 ans après que j'ai repris contact avec cette même thérapeute. Parce que même si sa démarche ne m'a rien apporté, mais la personne qu'elle était m'avait mise en confiance. Et je pense que pour moi, c'était naturel de la contacter et de reprendre là où le chemin s'était arrêté de thérapie. Mais cette fois-ci, avec plus de recul, je comprenais mieux mes mécanismes de bégaiement parce qu'il y a autant de manières de bégayer que de personnes qui bégayent. Et chacun a son propre iceberg pour reprendre l'image connue aujourd'hui du monde du bégaiement. Et voilà, donc nous voilà repartis. Je pense qu'on est resté 5 ou 6 ans de thérapie. Puis encore, qui m'a beaucoup apporté et qui a aidé à l'acceptation du bégaiement. Parce que je rappelle que mon bégaiement est toujours là. Je bégaye toujours de la même manière. Les tensions sont les mêmes, mais à une différence près, il est accepté aujourd'hui, il est assumé et ça permet d'être celui que je suis aujourd'hui, avec son bégaiement, mais qu'il assume et ça rejoint le mouvement du bégaiement positif. Voilà, bon, c'est un mouvement qu'on essaie de mettre en place à notre échelle petite, avec le concours éloquence du bégaiement, qui essaie en tout cas de montrer une image positive du bégaiement et de changer en même temps les mentalités.
Bégaie-toi, bégaie-moi.
Dans le parcours de soins, il y a la thérapie individuelle et les groupes de parole.
Exactement.
Oui.
Alors, ces groupes de parole, et comme dans tout mon parcours, je les ai regardés de mauvais œil dans un premier temps parce que je me disais, pourquoi est-ce que je devrais parler de moi aux autres? Et je pense que Cécile a ressenti le moment où j'étais prêt à le faire, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on n'a pas envie du tout de partager. Voilà, c'est assez surprenant, mais voilà, j'étais pas prêt la première fois, je pense. Je pense que c'est après, quand tu as ressenti que j'étais prêt à le faire, et franchement, j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui m'ont beaucoup apporté, et j'ai surtout apprécié la diversité des parcours. Parce qu'avant, même à la télévision, à la radio, dès que je voyais ou j'entendais quelqu'un qui bégayait, je changeais de chaîne ou j'arrêtais. Parce que je ne supportais pas d'avoir en face de moi quelqu'un qui bégayait. Donc le fait d'avoir cet espace d'échange avec d'autres personnes qui bégayent, avec leurs particularités, leurs tensions avec le visage, les mains, la bouche, c'est vraiment le fait de me confronter à la pluralité des personnes qui bégayent, et ça a été assez enrichissant, et je pense que ça a beaucoup contribué à mon acceptation du bégaiement. Et contrairement à il y a 10 ans où je zappais, où je switchais rapidement dès que j'ai quelqu'un qui bégaye, aujourd'hui, mon entourage est constitué de, on va dire, 70% des personnes qui bégayent. Donc, voilà. Merci en tout cas de cette démarche que tu as faite de me proposer de faire des groupes de parole.
Oui, il y a cette place du plaisir à communiquer, et dès que ce plaisir l'emporte,
exactement.
Et là je vois et je sais combien toutes les démarches, hein, au-delà du parcours de soins que tu avais entrepris, là c'est de l'autothérapie pour toi depuis des années,
exactement.
Ton engagement à l'association, ouais. Parole Bégaiement, les nombreuses réunions que tu animes, la mise en, j'allais dire, en visibilité de qui tu es, de tes forces, de tes envies. Tout ce courage-là ont participé aujourd'hui,
exactement.
À ce que les mots arrivent, et peu importe s'ils sont des bégayages ou s'ils sont tout à fait fluides.
Exactement, ouais. Je me vois, bon, 5 ans ou 6 ans en arrière, lorsqu'il m'arrivait de bégayer, surtout dans les milieux professionnels ou de la recherche, ce que je précise, que j'ai fait un doctorat en sciences de gestion. Donc, et qui dit doctorat dit des présentations orales, beaucoup à faire. Et c'est vrai que quand il m'arrivait de bégayer, c'était une semaine d'autoflagellation, une semaine de remise en question, une semaine de honte et de repli sur soi-même. Je me rappelle de ce prof qui voulait me prendre à une époque, mais qui m'a dit « je ne suis pas là pour gérer vos émotions ». Parce qu'il voulait me prendre en tant que chargé de cours. J'ai partagé mon bégaiement. Il m'a dit « sur le papier, vous êtes très bon, mais je ne serai pas là pour gérer vos émotions ». Le fait qu'il voit à travers ma personne quelqu'un de fragile, qui peut-être ne serait pas en mesure d'imposer sa légitimité, ça m'a quand même frustré parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Et c'est vrai que ça m'a freiné à l'époque dans mon envie d'aller vers l'enseignement. Heureusement, j'ai réussi à trouver d'autres personnes aussi qui m'ont laissé ma chance, qui m'ont écouté, qui ont compris mon bégaiement. J'en parle aisément aujourd'hui parce que je pense que ce sont des sentiments que nous partageons et que nous avons partagés à différentes époques de notre parcours de personnes qui bégayent. La honte, le repli sur soi-même, ce n'est pas quelque chose qui m'est propre à moi-même. Donc, avant, c'était comme ça, c'était une sorte de protocole. Je bégaye, je m'en veux, je me replie. Et voilà, c'était vraiment un cercle vicieux, assez fatigant et qui demandait une énergie folle. Donc avec le parcours de soins, et je rappelle qu'avec Cécile, on avait beaucoup d'échanges. Voilà, je pense que l'aspect psychologique d'échange a joué un rôle assez important dans l'acceptation qui me permet aujourd'hui de bégayer. Peu importe l'interlocuteur, le milieu, avec aisance. Bon, je ne me réclame pas du bégaiement. Voilà, il faut bégayer et l'imposer à l'autre. Parce que si j'avais à choisir, j'aurais choisi de ne pas bégayer. Mais il est là. Et maintenant, j'essaie de le vivre avec aisance. Et tout en mettant l'autre aussi face à ses responsabilités en termes d'accueil et d'écoute aussi par rapport à nous. Qu'est-ce que nous on fait pour mettre l'autre à l'aise? Parce que comme tu disais, bég et toi, bég et moi, c'est des situations de communication, comme tu disais. Et je pense que dans ces situations, on est deux à devoir jouer un rôle, en tout cas notre partition. La nôtre en tant que personne qui bégait, c'est de montrer à l'autre qu'on est à l'aise, que le bégaiement, il est là, mais ce n'est pas quelque chose qui va enlever en qualité d'échange. Bien sûr, ça, en général, il faut leur expliquer, leur parler, parce que je pense qu'en général, les gens ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui bégaye, surtout les personnes qui n'ont pas été beaucoup en contact avec nous qui bégayons. Donc là, il faut leur expliquer, adopter des gestes tranquillisants qui permettent à l'autre aussi de se sentir à l'aise dans cette situation de communication. Donc le regard, parler, expliquer notre bégaiement, l'associer aussi à cette situation de communication. Je pense que voilà, nous avons notre rôle à jouer et lorsque l'autre réagit, bon, ça m'est arrivé, je pense que comme c'est arrivé à toutes les personnes qui bégayaient, d'entendre des rires, des poufs, des réactions désagréables. Et dans ce cas-là, chacun adopte sa stratégie selon sa personnalité et selon aussi ce que demande la situation. Alors, avant, je me serais replié sur moi-même. Je n'aurais rien dit. J'aurais subi la situation avec la honte qui va avec. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je dis, j'adopte volontiers une approche, on va dire, pédagogique, constructive. Au lieu d'être agressif, même si certains auraient mérité qu'on le renvoie dans les orties, parce que c'est pas... Voilà. Mais, voilà, une approche pédagogique, pour expliquer du bégaiement, et si on a une blague ou une vanne qui pique, pourquoi pas? Voilà, il faut en abuser, piquer aussi pour au moins se réveiller l'autre. Je pense que chacun adopte sa stratégie selon sa personnalité et la situation de... et selon aussi la personne qu'elle a en face. Sensibiliser le maximum de monde, de personnes sur le bégaiement. Et c'est ce qu'on fait à Éloquence du bégaiement, c'est ce que fait l'association Parole Bégaiement. D'ailleurs, elle a un site qui est rempli d'informations, d'éléments sur le bégaiement. Et j'inviterai volontiers les personnes qui vont nous écouter à aller les visiter et à regarder le cons du bégaiement. C'était la minute pub.
Oui, et d'autant que c'est pas seulement parisien, ouais. Ça s'est élargi à beaucoup de villes.
Exactement.
À Nantes, à Lille et encore ailleurs. Mm. C'est pour dire que cette valeur d'utilisation de qui l'on est, de sa parole, pour faire passer des messages auxquels on croit, puisque exactement. L'éloquence, c'est vraiment voilà, vivre pour un message, pour faire passer des idées, bien au-delà de la forme. Oui. Alors, c'est extraordinaire que ce soit aussi ouvert
exactement.
À ceux qui bégaient.
Exactement.
C'est c'est pas la cerise sur le gâteau, mais c'est le complément indispensable.
Exactement. Oui. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des personnes qui bégaient, qui parlent du bégaiement et de leur bégaiement. Et je pense qu'en termes de référence, de représentativité, pour les jeunes, les adolescents, moi, j'aurais adoré, plus jeune, avoir des références, des figures voilà, qui bégayaient à la télévision, à la radio, entendre au moins quelqu'un qui bégayait. Malheureusement, en général, on est sujet à moquerie avec des comédiens qui, d'ailleurs, jouent très mal. Des personnes qui bégayaient, des vannes, c'est marrant, tout vite fait. Mais est-ce qu'on peut rigoler de tout? Surtout pour un adolescent qui... C'est l'âge où on va se chercher, c'est l'âge où on cherche à exister, à intégrer des groupes. Et là, tu n'as pas de référence, tu n'as pas d'image positive à associer au bégaiement. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est... offrir des références aux plus jeunes qui pourront se dire « Oui, j'ai bégayé, mais les autres, ils sont à l'aise, ils parlent, ils sont là, ils s'expriment et leur voix compte, donc pourquoi pas moi ?»
Bégaye-toi, bégaye-moi.
En quoi, tu dirais là aujourd'hui, Malik, ce qu'il te reste à parcourir, tes souhaits, tes envies? Bon, vers quoi aujourd'hui?
Alors, mon envie première, il y en a beaucoup, pas mal. Alors, si on devait les résumer, ces envies-là, sensibiliser sur le bégaiement, pour moi, c'est pas une profession de foi, mais pour moi, c'est une mission d'utilité publique. Parce que je pense que tant que les personnes ne connaissent pas les bégaiements, d'ailleurs, je joue volontiers à ce jeu de demander au maximum de personnes, est-ce que vous connaissez les bégaiements? Et c'est vrai que c'est une question que je pose. D'ailleurs, le monsieur qui nous a reçus dans ce studio-là, je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous connaissez du bégaiement ?» Et sa réponse franche m'a permis de lui expliquer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire tous, les personnes qui bégaient, les orthophonistes, mais aussi les parents, les proches qui connaissent mieux les bégaiements que nous-mêmes, parce qu'ils vivent avec nous, donc vivent les bégaiements indirectement. Donc sensibiliser et parler du bégaiement, pour moi, c'est une première envie. La deuxième, c'est démocratiser l'accès, la prise en charge. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de coins du monde, si on peut être rêveur et assez prophétique, dans l'exercice même de cette profession de foi, c'est de dire que, surtout en Afrique, en Asie aussi, c'est pas spécifique à l'Afrique. Même en France, aujourd'hui, on a des régions où l'accès à l'orthophonie spécialisée dans le bégaiement est quand même très difficile. Donc, pour moi, la deuxième envie, c'est vraiment œuvrer dans l'accès à la prise en charge, qui signifie la formation d'orthophoniste sur les bégaiements, mais signifie aussi une meilleure connaissance des personnes qui bégaient adultes, capables dans les endroits où il n'y a pas d'orthophoniste spécialisé, de recevoir les parents, les conseiller, les orienter, et pourquoi pas être des patients experts. Et la dernière, bon, c'est pas la dernière, mais comme on est dans un exercice de résumé, je suis professeur enseignant et avec donc un métier de parole en public. Et si on peut mettre en lumière aujourd'hui des personnes qui ont des métiers liés à la parole et qui bégaient, ce serait extraordinaire. Je prends souvent l'image des médias, des métiers liés à la parole où il n'y a pas de représentativité dans ces métiers-là, dans l'espace de parole publique, alors qu'il n'y a pas que la fluence, il y a beaucoup de vecteurs de communication et surtout de qualité de communication et que nous avons, nous personnes qui bégayons, et qu'on cherche tout simplement à valoriser. Donc c'est vraiment le combat de la sensibilisation qui, en tout cas, qui peut-être le mot de la fin.
J'ai été ravie d'être à tes côtés ce matin. J'ai accepté très volontiers ton invitation, Malik. Merci à tous. Hein.
Exactement. Et merci à toi, Cécile, très spécialement. Et nous remercions aussi les personnes qui voudront bien prêter une oreille attentive à ce podcast « Beg et toi, Beg et moi ». Et avec l'occasion qui nous aura été, en tout cas, offerte de nous faire entendre et d'habituer le public à entendre des personnes qui bégaient. Pour nous, c'est très important. Et bien sûr, merci à tous ceux et toutes celles qui ont pris part à l'aventure de ce podcast.
Bégaie-toi, bégaie-moi est un podcast de l'association Parole Bégaiement. Merci aux personnes qui ont accepté de se raconter. Oussamedine, Iliès, Gaspard, Faustine, Sylvana, Nouria, David, Sabrina, Tina et Malik.
Et également, merci aux intervieweuses Cécile, Christine, Sandra, Françoise, Marianne et Véronique. À la coordination, Christine Tournier et Malik Ndiaye. Et à la prestation technique, Zaizaï Radio et Passerelle Images.